Moi, c'est André Dimbouimaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs lors de son allocution le jeudi dernier à New York devant les conseils de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire en RDC. Madame Bintou Keïta a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir toutes les initiatives visant à rétablir la paix en RDC. La chef de la MONUSCO a déclaré que la mission mettra tout en œuvre pour appuyer un éventuel cessez-le-feu entre les belligérants dans l'est de la RDC. Suite à l'exposé de la chef de la MONUSCO, le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies a insisté sur l'urgence d'appliquer strictement les dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux violences et protéger les populations civiles dans les régions affectées. Cette résolution exige notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Quant au représentant de l'Angola, il a déclaré que son pays continuera de s'engager auprès de toutes les parties prenantes malgré son retrait de la médiation entre le Rwanda et la RDC et de soutenir toutes les initiatives visant à désamorcer les tensions. Le représentant de la France a appelé au dialogue et au respect des engagements de toutes les parties en conflit, notamment les cessez-le-feu afin de parvenir aux initiatives régionales et internationales, afin que les initiatives régionales et internationales puissent parvenir à une résolution pacifique du conflit. Cependant, tout en saluant l'engagement de la MONUSCO ainsi que des initiatives régionales et internationales visant le retour de la paix dans l'Est, les résultats enregistrés par la RDC sur le front diplomatique et la mobilisation à l'intérieur de tous les Congolais face à l'agression à travers la campagne congolais Téléma, certains leaders politiques estiment que la classe politique congolaise est désormais appelée à être solidaire et à travailler pour l'intérêt général du pays afin d'épargner aux populations civiles, parmi lesquelles les femmes et les enfants, les affres de la guerre dans l'Est de la RDC. Comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 085 44 65 536. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Elise Kavira assure la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Gombal à toutes et à tous. Excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Voilà, encore une fois, merci de votre fidélité à Radio-Okapi. La fréquence de la paix, merci d'avoir été nombreux à réagir par rapport à ces sujets chaque fois. Et comme on le fait chaque fois, et comme il est dit coutume, j'allais dire, on aura l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions. Alors, pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir, en tout cas, de recevoir en ces derniers jours du mois de mars une dame comme invitée. Mon invité, c'est Dr Marie-Claire Mutanda. Bonjour, Dr Marie-Claire Mutanda.
Bonjour, cher Marcel.
Vous êtes présent du parti Nouvelle Dynamique Lumumbiste, un parti membre de l'Union sacrée de la Nation, c'est bien cela?
C'est correct, oui.
Voilà. Donc, avec vous, on va parler, en tout cas, de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, notamment de tous les efforts qui sont entrepris, que ce soit les initiatives régionales, internationales, ou que ce soit même au niveau de la MONUSCO et aussi à l'interne, avec cette campagne congolaise à Téléma, on parle également des évêques, hein, avec ce projet de pacte social pour la paix en RDC. Alors, en tant que femme et leader politique, quelle analyse faites-vous d'abord de toutes ces initiatives de paix pour l'est de la RDC?
Oui, je pense que ce sont de bonnes dynamiques, hein, pour commencer au niveau. Je prendrai d'abord au niveau sous-régional. À partir de l'accord cadre d'Addis Ababa, il y a eu les initiatives telles que les Africains ont voulu définir que les différends entre le pays africain ou le problème africain trouvent la solution africaine. C'est comme cela que, dans notre cadre, dans le cadre de cette situation de l'insécurité ou de la violence ou de l'agression rwandaise, parce que maintenant elle est obvious, au départ, le Rwanda niait. Il y a eu deux mécanismes distincts qui ont été établis. Le mécanisme soi-disant des négociations entre État et État, représentées par le président du Rwanda et le président du Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo, et modéré sous la modération du président de l'Angola, qu'on appelle le mécanisme de Luanda, qui normalement s'était né à Luanda, en Angola. Et puis un autre mécanisme qui est un mécanisme entre l'État congolais et tous les belligérants, c'est-à-dire les différents groupes de violence qui sont surtout dans toute l'étendue de la partie orientale de notre pays, que ce soit bien au niveau de la province du Sud Kivu, Nord Kivu ou Ituri et dans cette partie-là. Donc, et cette ce mécanisme, lui, se réunissait normalement à Nairobi sous la modération du président Uhuru, l'ancien président de Kenya. Et puis donc, ces mécanismes ont évolué jusqu'au point où, en décembre 2014, l'année dernière, le président Kagame...
2024,
je veux dire.
Oui,
le président Kagame a refusé, donc il a boycotté la réunion entre lui et le président Fatih au niveau de l'Angola. Et après cela, l'escalation. Bon, maintenant, avec l'escalation,
vous parlez de l'escalade militaire, c'est ça?
L'escalade militaire.
Oui.
Avec le M23 qui a commencé à reprendre d'autres territoires. Il a pris le Sake, il est monté jusque sur Goma, la chute de Goma, avec cette fois-ci une agression frontale, une déclaration de guerre ouverte. L'armée rwandaise qui traverse les frontières entre sur notre pays le 27 janvier 2025. Et saccage, fait un spectacle désolant que nous avons tous vu parce que c'était monitoré en direct. Les prisons sont brûlées, les femmes sont brûlées, les enfants sont brûlés, les jeunes gens sont tués et c'est catastrophe pour pouvoir envoyer le message d'erreur. Et tout de suite après, il appelle de dire il faudra que le pays, l'État congolais, aille négocier avec les M23 et qu'il aille négocier avec les M23 directement. Et donc, c'est là que tout est parti. Mais quand même, je voudrais dire ici que, à part ces mécanismes régionaux, il y a eu aussi beaucoup d'efforts, toujours au niveau régional, de l'EAC et de SADC pour essayer de résoudre ce problème au niveau des négociations paisibles. Mais nous voyons que le président Kagame n'a pas vraiment intérêt de résoudre ce problème à l'amiable. Parce que ce n'est pas la première fois. Souvent, ce que nous regardons, nous voyons les choses dans le contexte, comme maintenant. Mais cette situation qu'on vit aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui. Elle remonte de depuis 1996. Et depuis 1996, le président Kagame a toujours trouvé une justificatif pour agresser notre pays. Que ce soit d'une façon masquée ou que ce soit d'une façon ouverte. D'abord, on pourrait même remonter, selon Charles Onana, que ça, même avant 96, quand les réfugiés sont entrés, c'était déjà une façon de nous agresser masqués. Et puis ensuite, en 96, au moins on le sait, il est venu avec le Moïse Kabila, soi-disant, pour chasser Mobutu. Mais au départ de la guerre, nous, ce qu'on savait, c'était que il chassait les Interahamwe de ne pas être plus proche des frontières, de les envoyer beaucoup plus en dedans du pays pour qu'ils ne puissent pas rentrer faire des escarmouches. Et ça, c'est les mensonges qui est parti de là et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il s'est transformé de Interahamwe en FDLR et c'est toujours ça que le président Kagame utilise pour pouvoir nous attaquer.
Mais alors, par rapport à tout cela, on le sait déjà, mais aujourd'hui, mm-hmm. les masques sont tombés et mm-hmm. tout le monde sait que Kagame, le président, le Rwanda est vraiment impliqué, nous l'avons dit, mm-hmm. avec ses résolutions 2773 des Nations Unies,
d'accord.
qui exigent le retrait des troupes rwandaises du territoire mm-hmm. congolais à cessation immédiate des hostilités par les M23, avec toutes les initiatives de paix, que ce soit au niveau régional, au niveau international, que ce soit également au niveau, en tout cas, de la mission de la MONUSCO. Vous avez suivi, je parlais de
Madame
de Binta, qui a réellement réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir toutes les initiatives visant à rétablir la paix en RDC. Mais vous êtes femme, vous êtes présidente d'un parti politique, mm-hmm. Et souvent, les femmes, vous n'arrêtez pas de le dire, les femmes et les enfants sont généralement en train des grandes victimes des offres et de la guerre. Alors, comment pensez-vous qui doit être fait, que ce soit sur le front diplomatique? C'est vrai qu'il y a déjà des résultats enregistrés qui sont encourageants, mais il y a encore ceux qui estiment qu'à niveau interne, il y a encore beaucoup de choses à améliorer.
D'accord. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses, même au niveau international, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, au niveau international, grand, on reconnaît, en tant que femme, je reconnais d'abord le rôle qu'a joué le MONUSCO, dirigé par une femme, et le rôle qu'a joué notre ministre des Affaires étrangères,
Madame Thérèse
Kouikwamba. Bien sûr, pour pouvoir obtenir cette résolution, la 2773. C'est une résolution qui est très claire. Elle ne parle pas seulement du retrait, elle exige au M23 d'arrêter de se battre, mais aussi de quitter les zones d'occupation, toutes les zones où ils sont présents, de quitter. Elle va au-delà même en parlant de causes profondes de ces guerres qui sont d'origine économique, des pillages de minerais. Il parle de pouvoir aussi sanctionner les minerais qui n'entrent pas dans la traçabilité des normes au niveau de la conférence de Grand Lac. Donc, c'est une résolution qui est complète, qui n'a pas mise en œuvre. Elle s'adresse au Rwanda d'érythrée, elle s'adresse au M23, elle s'adresse à tout le monde d'arrêter de faire le cessez-le-feu, mais elle s'adresse aussi même aux acheteurs de minerais parce que c'est ça la cause, c'est ça ce qui pousse Kagame. Bon, en tant que femme, je trouve ici que, à part mes deux sœurs que j'ai citées, il y a un grand rôle, la femme en général, que ce soit bien au niveau international. D'ailleurs, je vais rappeler ici l'autre résolution des Nations Unies, la 1325, qui y a encouragé pour tout le processus de paix l'implication de la femme, que ce soit au niveau de la participation, de la protection ou de la prévention. Et ici, il faudra bien que le Congo, parlant de mon pays, puisse s'assurer qu'il y ait cette représentation de femmes au niveau où les décisions sont prises, hein, à tous les niveaux, s'il n'y en a pas, l'effort. Mais parce que la résolution reconnaît que non seulement la femme, elle est la victime, nous le voyons bien sur le terrain. Le corps de la femme est utilisé comme champ de bataille. Combien de viols, combien de tueries. Et donc, non seulement elle est victime, mais elle ne devrait pas être prise seulement dans sa position de corps. Elle est vraiment actrice, partie prenante dans le processus de paix.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, la femme est à même de jouer ce rôle mieux que les hommes?
Absolument. Absolument. Bon, ici, c'est bien de comparer, mais j'évite de comparer parce que toujours ça crée des polémiques. Mais c'est vrai, par nature, la femme est bien disposée de jouer pour la paix, hein, en faveur des négociations, en faveur de la paix.
Et même pour le développement du pays.
Et même pour le développement du pays. Par nature aussi. Et vous pouvez voir, regardez, même vous-même, rentrez dans votre famille, regardez, quand il y a des différends entre les enfants et vous-même ou bien les parents, la personne la mieux équipée pour pouvoir remettre les tranquilles, c'est la femme que le papa. Il utilisera beaucoup la dictature ou bien les tranchées, mais les enfants, pour pouvoir juger, négocier, parce que dans la négociation, on prend le dessus, c'est la femme qui est disposée. On a cette capacité naturelle de pouvoir aussi être partie prenante. La difficulté que nous avons dans nos contextes, c'est qu'on n'a pas, depuis la tradition et la culture, n'a pas su valoriser la femme, n'a pas su utiliser le potentiel qu'a la femme pour assurer la paix, que ce soit au niveau du pays ou même dans le continent, et aussi assurer le développement de ce continent.
Voilà, on revient à vous, docteur Marie-Claire Mutanda. On va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Jérémy Mamba qui nous appelle de Lubumbashi, Romuald Amani qui est à Bukavu, Neker Tokolo ici à Kinshasa, à Mons, Bissimwa qui est à Bukavu. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des toutes les initiatives de paix, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international, au niveau interne, encore le rôle de la MONUSCO pour rétablir la paix en RDC, si vous voulez intervenir, composer, et aussi le rôle, l'implication de la femme congolaise pour ce qui est de la paix et du développement en RDC. Et si vous voulez intervenir, le numéro, c'est le 0825 44 65 536.
Parole aux auditeurs.
Nous avons en ligne Jérémy Mwamba qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Jérémy, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à Madame l'invitée. D'entrée de jeu, je présente des inquiétudes par rapport à ce que traverse notre pays aujourd'hui, parce que il y a une insensibilité totale de la part de la communauté internationale et qui reste jusque-là pantoise par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Alors, nous sommes allés de déclaration en déclaration. Nous sommes arrivés à tisser ce qu'on a appelé la résolution jusque-là 2773 au niveau du Conseil de sécurité. Et on a donné le moratoire visant à ce qu'il y ait un cessez immédiat et que les hostilités qui se passent à l'est de notre pays puissent totalement cesser. Et là, je me suis dit, voilà, c'est la voix d'un parent qui est en train de remettre son enfant sur les bons rails. Mais que fait l'enfant jusque-là? Lorsque un enfant défie son père et que son père reste insensible face à cette situation, mais je me dis que il y a complicité, il y a des choses qui ne peuvent pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce serait écrit dans l'histoire qu'un jour un président d'un tout petit pays soit-il a défié les grandes organisations internationales? Ça, c'est à noter et il l'établit bien évidemment. Alors là, je voudrais dire ceci. Je voudrais interpeller que ce soit les conseils de sécurité, que ce soit la communauté internationale pour dire, est-ce que il est temps de dire que la mission a failli ou c'est tout simplement un trompe-l'œil? Qu'on se dise réellement, est-ce que réellement, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il faut donner à ce monsieur, le président du Rwanda, des sanctions très sévères et exemplaires au diapason de ce que l'Est est en train de vivre. On voit tout le temps les femmes violées, on voit tout le temps les enfants violentés, les enfants ceci, cela, tués à la longueur de la journée, et ça, c'est là, sous les yeux impuissants de ceux-là qui sont censés remettre de l'ordre.
Alors Jérémy Mwamba, les constats que vous avez faits, et celui-là, on vous les concède, mais il y a aussi une autre paire de manches. Vous avez suivi un docteur Marie-Claire Mutanda, qui est mon invité, président du parti Nouvelle Dynamique Lumumbiste, et qui estime que la femme a également un grand rôle à jouer pour tout ce qui est de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, pour tout ce qui est du développement de la RDC. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Comme ça, c'est aussi une partie de l'émission. C'est pas pour nous avoir invité une femme.
Exactement. Oui. Exactement. J'ai beaucoup apprécié l'attitude de madame qui représente l'ONU, madame qui chapeaute la MONUSCO ici et qui est presque la représentante. J'apprécie. Et je voudrais peut-être épouser, entrer sur sa voie pour dire que il faut nécessairement qu'on puisse procéder à la réqualification de la MONUSCO. Donc, c'est-à-dire lui donner une autre casquette, une autre mission pour que réellement la MONUSCO fasse son travail. Ce n'est pas le petit Rwanda qui peut peser devant la MONUSCO.
Voilà.
Et une grande organisation qui peut accepter l'ONU qui délègue ses membres.
Merci
et
beaucoup.
Voit ses membres en train de tomber sous le champ des balles.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy Mwamba. Il faut qu'on poursuive avec d'autres auditeurs. Et ça va vite, hein. Vous savez, lorsque les auditeurs, vous avez la parole, si on vous arrête pas, c'est pas facile. Voilà. Merci, Jérémy Mwamba, d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Romuald Amani, vous êtes à Bukavu. On vous écoute.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Je salue également la brave dame, Madame Marie-Claire, qui est avec vous au studio de la Radio Okapi. Et tel que vous l'avez suivi dans les interventions précédentes, surtout la brillante intervention de Madame Marie-Claire et la thématique de ce jour, La question de la paix nous préoccupe tous, en particulier nous qui vivons au quotidien la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Là, je fais allusion à la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Que même en dehors des zones occupées par la rébellion M23 AFC, les environs des entités non occupées souffrent aussi de cette même grippe, de cette même souffrance due à l'insécurité grandissante. Mais nous pouvons quand même dire que l'allocution de Mme Pintou Keïta, la brave dame, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a mis en clair son engagement continu de la MONUSCO à vouloir soutenir le processus de la paix en RDC, remonte encore ou reflète encore un peu d'espoir dans le souhait des peuples congolais, ou de la population du Sud Kivu et du Nord Kivu en particulier, lorsque il parle d'un éventuel cessez-le-feu dans les zones occupées ou dans les zones à fait actuellement par la guerre. Cependant, son efficacité, l'efficacité de ce cessez-le-feu reste à débat, étant donné que ça a toujours été créé en déclaration, mais ça, on ne voit pas vraiment son effectivité ou son effectivité, sa réalisation sur les terrains, étant donné que les tensions continuent à se poursuivre de jour à jour. Il y a toujours des morts, il y a toujours les gens qui fuient leurs entités, il y a toujours les gens qui ne sont pas assistés, il y a une pénurie en intervention des aides humanitaires. Et là, nous disons, est-ce que le cessez-le-feu tel que voulu par la MONUSCO à travers Mme Bintou Keïta sera effectif? Et voilà que nombreux Congolais et nombreuses Congolaises aujourd'hui ont un regard tourné vers l'international, vers les missions onusiennes qui sont déployées quelquefois en RDC. Ils y ont été plus de décennies, mais on n'a pas vu vraiment les résultats concrets. Mais étant donné la situation actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre, nous estimons que leur intervention, leur implication serait encore salitaire. Et c'est là où j'ai toujours dit, au sein de notre organisation Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, nous avons dit que ça a été une imprudence pour la RDC de pouvoir suspendre la mission de la MONUSCO au niveau de l'Est, de part du Sud Kivu et Nord Kivu, pendant que déjà Rumangabo s'était en train de prendre effet. On aurait pu garder cette mission en RDC, au Sud Kivu, au Nord Kivu, en attendant qu'il y ait une pacification totale des régions occupées.
Bon, la mission a mis fin dans le Sud Kivu, pas au Nord Kivu. Ouais. Ouais, dans le Sud Kivu, là, on est bien d'accord. Oui,
oui, voilà, par rapport au Sud Kivu.
Oui.
Mais l'existence de représentants permanents en RDC de la MONUSCO, c'est l'application stricte aussi de la résolution 2773 est un point essentiel aussi, parce que dès lors que le Conseil des Nations Unies avait pris cette décision, cette résolution, on a espéré que peut-être dans les 24, dans les 48 septembre qui suivaient, on pourrait voir la concrétisation de cette résolution.
Voilà, merci Romuald Amani. On a compris. Donc pour vous, il y a cette résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous n'attendez plus que l'effectivité de cette résolution qui exige le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, la cessation immédiate des hostilités par les M23, et vous continuez à encourager les rôles de la MONUSCO, même si bien que vous jugez que le résultat est quand même mitigé. Merci Romuald Amani depuis Bukavu. Neker Tokola, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Bonjour Marcel, bonjour également à Madame Marie-Claire qui. En fait, je voudrais commencer mon intervention par rappeler au Conseil de sécurité de l'ONU que prise le 21 février 2005, sa résolution 2773 a totalisé aujourd'hui pratiquement 41 jours sans aucune avancée significative dans le processus de son exécution. Et pourtant, cette résolution insiste sur l'immédiateté, n'est-ce pas, dans l'application de ses recommandations, notamment le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23 du territoire congolais, la cessation des hostilités par le rebelle qui se matérialise par un cessez-le-feu réel de part et d'autre, j'en passe. En fait, il y a une opinion qui n'a pas totalement tort. Je pense que dans un conflit qui touche à deux ou plusieurs États, le droit international imprime toujours comme faiblesse majeure sa quasi-subordination à la bonne volonté des parties au conflit. Et cette opinion souligne qu'il s'agirait plutôt du motif jusqu'ici de la désobéissance de cette résolution par les protagonistes. Cependant, bien que soit-elle évidente cette appréciation factuelle, il y a lieu d'élever le niveau d'échange avec une autre perception du fait. En vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions, voire autoriser l'emploi de la force. Là, j'insiste sur l'emploi de la
donc,
force.
Voilà. Pour rétablir la paix et la sécurité. N'est-ce pas que le point avancé, on a compris, cette résolution, elle est la bienvenue, mais pour vous, il faut passer à des actions concrètes, c'est-à-dire, il faut que cette résolution puisse avoir un caractère contraignant, c'est-à-dire passer vraiment à l'action sur le terrain. Voilà, on va progresser. Hein. Merci, Necker Tokolo, depuis Kinshasa. Amos Bissimo, vous êtes à Bukavu, on vous écoute.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'invité au studio. Je tiens à saluer les interventions de mes prédécesseurs, mais je tiens aussi à dire, comme on sait de le dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis content comme l'invité est de l'Union Sacrée. Je voulais lui poser une question. Quel est cet état sérieux au monde? Son territoire occupé par les étrangers doit attendre des déclarations, des sanctions d'autres pays et dont la plupart sont complices pour libérer son territoire. J'espère bien qu'elle va nous répondre parce qu'elle est de l'Union Sacrée. Je pense, comme mes prédécesseurs ont allé dire, les déclarations de Bint Keïta, la résolution 2773, France, et tous les autres pays qui ont y a déclaré. On en a assez. En comparant la situation qui se passe sur le terrain et toutes ces déclarations, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit et je pense que ces pays profitent d'un état défaillant pour faire des déclarations, prendre des sanctions qui ne donnent aucun résultat sur le terrain. Et ça révolte le peuple congolais et plus particulièrement la population de l'Est.
Voilà, Amos.
Je voudrais aussi poser une autre question à madame.
Oui, allez-y.
Me permettez, Marcel.
Oui,
une
allez-y.
Autre question à madame.
Oui.
Est-ce que Bounagana est tombé aujourd'hui? Bientôt 3 ans. Qu'est-ce que sa famille politique qui gère le pays a fait pour libérer Bounagana et arrêter l'hémorragie?
Voilà, Amos, s'il vous plaît.
Amos,
s'il vous plaît, elle va réagir. Marcel. Elle va réagir par rapport à ça, mais comme je le dis, il y a un autre intérêt de ce sujet, c'est par rapport à la femme congolaise et dans son implication, que ce soit au niveau de la politique et dans le développement de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que vous avez suivi également la dame, mon invité, Dr. Marie-Claire Mutanda, qui est présidente d'un parti. Je l'ai invité parce que c'est les derniers jours, en tout cas, le mois de mars, mois dédié à la femme, mois dédié à la femme, avec ces cris d'alarme des femmes congolaises par rapport aux affres de la guerre, comme on le sait, les femmes sont vraiment de grandes victimes de la guerre à l'est du pays qui dure plus presque 3 décennies. Que vous avez commenté à faire par rapport à la femme congolaise, son implication pour ce qui est de la résolution de la paix, la résolution des conflits?
Tout à fait, Marcel. Savez que j'ai toujours été un homme jarré.
Oui.
J'ai toujours été un homme jarré et je ne cesse de dire que là où les hommes ont échoué, les femmes peuvent mieux faire. Mais quel genre de femmes?
Oui.
Les femmes qui font montrer de leur méritocratie. Ça, j'ai toujours dit. Mais quand on a nommé la première ministre Judith Tuluk, tout le monde a dit comme c'est une femme, espérons qu'elle va s'impliquer d'une manière rigoureuse pour ce qui est d'abord de la sécurité, pour que l'Est soit pacifié. Et que les femmes, nos mères, nos sœurs qui sont violées du jour le jour trouvent la paix. Mais depuis qu'elle est là, quel est le résultat? Il n'y a rien, à part des discours vains qui ne produisent rien sur le terrain. C'est pourquoi je soutiens les femmes dans leur manière de s'impliquer pour chercher la paix, mais pas n'importe quelle femme.
Voilà, merci.
Il faut montrer de leur méritocratie.
Voilà.
Malheureusement, chez nous, au nom des femmes par trafic d'influence.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos. Vous avez insisté sur la méritocratie et vous pensez que la femme peut bien également jouer un rôle clé dans la résolution des conflits, notamment pour ce qui est de la guerre à l'est de la RDC. On va écouter José Nyombo qui est à Kinshasa et puis on reviendra à notre invité. José Nyombo, vous avez la parole depuis Kinshasa.
Ah, bonjour Marcel, bonjour à tout le monde. Bon, moi je commence directement d'abord par éviter l'apport de la femme dans tout ce qu'on est en train de mener comme réforme pour apporter la paix. Il y a déjà l'action de la ministre des Affaires étrangères qui est allouée, mais il faut encore faire plus. Je crois que même la première ministre doit saisir l'opportunité pour démontrer que la femme est capable de faire quelque chose. La résolution dont nous parlons est une porte ouverte et nous a donné beaucoup d'avancées pour aller vers la résolution du conflit et amener la paix au pays. Mais il faut capitaliser ces acquis-là. C'est là où on n'a pas joué un bon rôle. Et je demande au pouvoir public, le gouvernement, de passer à la vitesse supérieure. Cela veut dire amener la communauté internationale à plus d'actions concrètes au lieu de rester dans le mot. Il faut arriver, si possible, à appliquer l'isolement diplomatique à la contre du pays agresseur. Et ça, la RDC doit jouer son rôle. Donc, ça veut dire nous sommes en train de suivre les choses au lieu de d'avancer les choses et de faire bouger la machine. La machine congolaise ne bouge pas. Nous devons passer au pourparlers déjà maintenant, à l'interne et à l'externe. L'Union sacrée elle-même n'est pas cohérente. La gestion de l'Union sacrée est chaotique et on ne sait pas comment on va tirer les autres pour que les autres nous accompagnent bien. Faites-vous accompagner par toutes les forces du pays, sur le plan politique et les forces de la société civile. Saisissez la démarche des évêques à mêler dans les acquis de la résolution dont nous parlons. Ça, c'est très important.
Voilà, merci.
Donc, le gouvernement doit beaucoup travailler.
Voilà, merci beaucoup, Josué Nyembo, depuis Kinshasa. Rapidement, je vais lire une réaction sur la page Facebook par les auditeurs, puis je vais revenir à notre invité, Dr. Marie-Claire Mutanda. C'est Ruben Malikano qui nous écrit, depuis que les initiatives qui font appel au cessez-le-feu et les retraits immédiats des rebelles du M23, et la cessation des hostilités pour mettre fin aux hostilités dans la partie est du pays, rien n'est jusqu'à présent respecté. Ces troupes rebelles M23 soutenues par le Rwanda continuent toujours d'occuper des localités en RDC s'appuyant sur le fameux slogan la libération des Congolais alors que les Congolais n'en profitent aucunement. À ces jours, les Congolais continuent toujours de lancer leur cri d'alarme aux communautés internationales et nationales car le peuple continue de souffrir de la présence de ces rebelles sur leur terre. Voilà, ça c'est Ruben Malikano depuis Bukavu. Je reviens à mon invité, Dr. Marie-Claire Mutanda. Vous avez suivi les interventions des uns des autres. Comment réagissez-vous? Il y avait une question directe à vous qui êtes votre parti est membre de l'Union sacrée.
Non, je vais commencer justement à répondre à Amos Bisimwa. Mon frère, j'ai bien vraiment partagé votre émotion dans tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai, nous sommes tous, même si nous ne sommes pas au front, ce que nous voyons dans le réseau tous les jours, ce que nous recevons de nos frères qui sont au front, nous froisse les corps. Et on ne peut pas accepter qu'une résolution qui a été décrétée depuis le 21 février soit restée jusqu'à présent non appliquée. Raison pour laquelle il y a eu, le jeudi dernier, vous vous rappelez qu'il y a eu encore un autre conseil de sécurité et à ce conseil, on a fait l'évaluation de la mise en œuvre de cette résolution qui n'est pas appliquée et il y a eu des pays qui ont haussé le voix pour demander l'application. Ce qu'il faut considérer ici, donnez-moi un peu, 2-3 minutes pour que je puisse retracer les choses. J'ai aussi beaucoup aimé, je vais aborder en même temps la question, je pense, de monsieur je crois que c'était José Nyembo à Kinshasa, ou c'est toujours Amos Bisimwa qui a parlé de est-ce que Bounagana est tombé aujourd'hui. Mais moi, je voudrais ramener les choses que ce n'est pas au moment où Bounagana est tombé. La situation que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité à l'est de notre pays, a commencé depuis 1996. Et depuis 1996, pendant 30 ans, le Rwanda a utilisé un système de dissimulation et de mensonges, de manipulation, de déception, d'influence pour pouvoir avoir son narratif qui passe toujours au détriment du narratif congolais. Et donc, dans le temps, dans le processus du temps, on peut se dire qu'il n'y a qu'au moment où le président Fatshi, même lui au départ, il a été pris dans cette manigance du Rwanda. Mais il n'y a qu'au moment où, à l'opposé, il y avait eu aussi un moment comme ça.
Le président Fatshi, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qu'il se détourne pour commencer à pointer le doigt le problème, que la dynamique a commencé. Et cela, ça remonte d'il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, au moment où les M23 est venu. Et personne, mes chers frères, n'a cru, même quand il a fait beaucoup de voyages, nous l'avons critiqué ici au niveau du pays. Et dans ces pays où il allait, personne ne croyait, parce qu'on dit, non, il y a le FDLR qui attaque le Rwanda. C'est toujours le narratif de Kagame avec ce lobby qui a marché. Et donc, même au moment où Bounagana est tombé, il a parlé, on a besoin de ça. Et ça, c'est la première chose que je parle par rapport à la diplomatie. Et ici, je veux tout de suite encore insister que si le président Fatshi, ou je vais l'appeler toujours Fatshi, ça compte a préféré mener ses combats au niveau diplomatique beaucoup plus qu'au niveau local, même si au niveau local, il a investi énormément, que ce soit dans la redynamisation de notre force armée, les habiller, lever l'embargo sur l'arme, lever l'embargo, réformer, acheter les armes et même les uniformes parce qu'ils n'en avaient pas. Toutes ces choses ont été faites simultanément pendant qu'au niveau diplomatique, il a mis l'accent là-dessus parce que c'est le terrain où il pouvait déjouer, déboulonner le président Kagame qui avait tout le monde dans sa poche. Et je vous dis que si jusqu'aujourd'hui, vous parlez de Bounagana. Si jusqu'aujourd'hui, Kagame n'avait pas lui-même fait jouer un grand jeu de nous donner vraiment raison, n'était pas entré le 27 janvier 2025, il y a 64 jours ou 63 jours, ici, avec son armée, on aurait encore aujourd'hui beaucoup de difficultés de convaincre tous ces pays, même pour avoir la 27-73. Parce qu'il avait réussi vraiment à prendre tous ces mondes sous cette coupe des génocides et les mentir. Il niait toujours que M23 n'a pas l'assistance du Rwanda pendant des années. Bounagana, il a toujours nié que M23, malgré que les experts nationaux.
Donc vous espérez, docteur Marie-Claire Mouton,
je veux dire qu'il y a une grande, même ici au niveau du pays, pas seulement diplomatique, même ici au niveau du pays, il n'y a pas plus longtemps qu'un mois, on ne pouvait pas, même ici, il n'y avait pas de fonds populaires dans ce pays. La campagne Congo Telema, que Mme Judith Simino apporte, nous sommes dans cette... quelqu'un a parlé d'accélérer. Nous sommes dans cette phase de mettre le pied sur la vitesse et on accélère. Et aujourd'hui, dans toutes les provinces, sur tous les médias, tout le monde parle de Kagame qui agresse. Mais si on retrace dans le temps, il y a 2-3 mois down the line, on ne parlait pas de ça.
Et au niveau de l'interne, pour ceux qui parlent de la cohésion nationale, il faut renforcer la cohésion.
Absolument. Il faudra au niveau... On ne peut pas le faire. D'ailleurs, c'est ça aussi la force. Si Kagame a toujours réussi de nous avoir pendant ces 30 ans, en venant d'abord à AFDEL, RCD, CNDP, et puis M23, et chaque fois il y a toujours une histoire, et cette fois-ci c'est AFC, c'est parce qu'il y a toujours cette notion des Congolais qui sont insatisfaits des autres Congolais, qui veulent, et c'est la division. Et notre division politique, les politiciens, pour beaucoup fois des raisons individualistes, ils embarquent la notion de tribalisme qui beaucoup nous amène dans des
c'est
divisions
inutiles. C'est un véritable
chantier
hein, pour la classe politique.
Absolument, on a besoin de s'unir. Maintenant que nous connaissons que notre ennemi, ce n'est pas forcément notre frère, notre ennemi d'abord aujourd'hui pour ce qui est de notre souveraineté, notre intégrité territoriale, c'est le président Kagame avec son régime sanguinaire. Il faudra qu'on se mette tous qu'on soit opposé ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on se mette tous d'abord pour faire cette campagne qu'on a dit d'accélérer. Là, il y a par exemple...
Qu'on se mette d'abord tous ensemble pour faire face à l'ennemi.
À l'ennemi.
Et ensuite, on pourra voir comment...
Notre maison est en feu.
On revient à vous, docteur Marie-Claire Moutanda. J'ai le plaisir de recevoir Élise Kavira. Bonjour Élise.
Bonjour Martel.
Voilà, vous avez des condensiers, des réactions par rapport à ces sujets, si on peut rapidement les découvrir.
Marcel, nous avons bien évidemment la réaction de Alain Moutiki depuis Bukavu, qui nous dit, qui pense que l'implication de la MONUSCO peut encore ramener la solution par la cessation des hostilités. Cependant, il réalise que plusieurs leaders politiques de notre pays se mettent à mobiliser. Il réalise que plusieurs...
Il y avait souci des micros, mais non, ça va. Mais non, si rapidement, tu peux reprendre, oui.
Merci Marcel. Je disais, nous avons la réaction de Alain Moutiki depuis Bukavu, qui pense que l'implication de la MONUSCO peut encore ramener la solution par la cessation des hostilités. Cependant, il réalise que plusieurs leaders politiques de notre pays se mettent à mobiliser la population contre la communauté internationale, comme ce fut le cas de la période avant le départ de la MONUSCO. Mais ces mêmes leaders politiques ne se fatiguent pas de faire des navettes vers cette même communauté internationale, non pas pour trouver des solutions aux problèmes de la population, mais pour leur pouvoir et avantages égoïstes. Il est appuyé par John Numbi Omande de Kindu, qui salue cette montée au chrono de la chef de la MONUSCO. Mais il regrette de toujours entendre le même son de cloche chaque jour et il trouve qu'il n'y a rien de nouveau dans tous ses propos. Sami Kalambay depuis Lubumbashi estime que, bien que l'engagement de la MONUSCO et des acteurs internationaux soit louable, il est légitime de questionner l'efficacité réelle de ces initiatives dans un contexte où les violences persistent depuis des décennies. De son point de vue, les résolutions comme la 2773, bien qu'importantes sur le papier, peinent souvent à être appliquées sur le terrain en raison du manque de volonté politique des partis impliqués. Et depuis Goma, Jackson Kisangani reconnaît que l'allocution de Mme Bintou Keïta met en lumière les enjeux sécuritaires dans l'est du pays. Cependant, les attentes de la RDC exprimées par son représentant permanent vont au-delà d'un simple accompagnement. Elles exigent une application stricte de la résolution 2773 qui demande le retrait des troupes rwandaises et la cessation immédiate des hostilités. Pour Victor Mudekereza Tirouzi depuis Bukavu, la chef de la MONUSCO veut tout simplement jouer au malin. Il pense que mettre en avant cette résolution 2773 est une distraction totale. Pour lui, la solution est de nous mettre sur une même table pour une solution pacifique des différends, au lieu d'attendre l'implication de la communauté internationale pour résoudre nos problèmes. Nous terminons avec Destin Trezo depuis Calais, qui dit n'est rien voir de nouveau dans tous ces conseils, car à chaque conseil, on a toujours prôné le cessez-le-feu. Mais nous continuons à payer le prix cher. Il estime que la solution devrait être une bonne organisation de l'armée et imposer la paix car notre intégrité territoriale n'est pas à négocier, plutôt à imposer. Voilà en quelques lignes, Marcel, les différents points de vue de nos auditeurs à ce sujet.
Voilà, merci Élise Kavira pour condenser des différentes réactions par rapport à ces sujets. On vous retrouve demain.
Merci Marcel.
Voilà, vous avez une réaction, docteur Marie-Claire Moutanda.
Ouais. J'ai des réactions et j'ai beaucoup aimé toutes les réactions, elles sont fondées. J'ai aimé la dernière réaction qui dit que, et quelqu'un d'autre l'a dit aussi dans des questions, hein, que c'est bon, toutes ces résolutions internationales, mais il faudra l'organisation de notre armée. Quelqu'un d'autre l'a dit aussi. En effet, c'est ça. Et si nous sommes arrivés même où nous sommes ici, c'est là aussi des questions qu'il faut se poser. Parce que, en réalité, quand un pays voisin attaque un autre, il va de ce pays de se défendre. Et c'est pour cela qu'on a une armée pour la défense et la protection. La difficulté que nous avons eue, et ici tout le Congolais peut le savoir, c'est justement la difficulté inhérente, comme nous retraçons le problème, pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 30 ans, inhérente de ces manipulations et ces déceptions qui ont été déjà conçues depuis les débuts avec des programmes, des brassages, des mixages où notre armée est un papier armée congolaise, mais contient dedans des éléments qui répondent aux ordres de l'ennemi et donc qui ne sont pas là pour la défense du peuple congolais, ni pour sa protection. C'est comme ça que nous avons vu des généraux qui ont fui, qui ont laissé les armes et la logistique aux mains des ennemis, qui n'ont pas engagé, qui n'ont pas laissé des instructions. Ça ne s'est fait nulle part. Un général, c'est lui qui donne les opérations, et quand le pays est en attaque, il se donne, même s'il doit mourir.
Madame, qu'est-ce qui explique cela d'après vous, qui font que certains Congolais sont prêts à vendre leur pays?
Ce qui se passe au niveau de ceux qui sont Congolais, c'est qu'au niveau de Congolais, il y a eu un grand mixage, un grand brassage. Et puis ici, il faut aussi dire ceci. Au niveau Congolais, il y a ce que parfois je dis, mon peuple se meurt par manque de connaissances. Il y a une certaine naïveté totale qui a fait que les gens, y compris les dirigeants, ils ont cru dans la bonne volonté de Kagame de pouvoir résoudre le problème de Congo. Kagame n'a aucun plan de résoudre le problème du Congo. Il a besoin d'occuper le Congo parce qu'il vit des richesses du Congo. Et donc, tout Congolais qui va lui présenter son problème, pour lui, c'est une opportunité, c'est un dos sur lequel il monte et il alimente toute cette division qui est au milieu de nous pour pouvoir ensuite, lui, venir soit diriger le pays comme il a dirigé à distance par télécommande pendant plus de 22 ans, ou alors carrément occuper le terrain, parce que c'est ça, là, ils sont arrivés à la phase de pouvoir couper, déstabiliser et balkaniser le pays. Donc quand on comprend ça, et ça c'est récent qu'on est en train de le comprendre.
Est-ce qu'il faut dire que Kagame, s'il vous plaît, docteur Marie-Claire, est-ce qu'il faut dire que Kagame profite également de l'égoïsme, de la mauvaise gouvernance de la classe politique congolaise?
Il profite de ça, pas seulement, c'est de ça qu'il vit, il profite de ça. Ici, il faut dire, hein, il y a des gens aussi qui ont parlé de la complicité internationale, ainsi de suite. Je voudrais aussi dire une chose ici, c'est que les relations en pays, il faudra, mes chers frères et sœurs qui me suivez, que nous comprenions que ce ne sont pas des relations d'amoureux, ce ne sont pas des relations des émotions, et ce sont des relations basées sur les intérêts.
Il n'y a que les intérêts.
Absolument, et les intérêts, ce sont les intérêts de peuples qui mettent les gens au pouvoir. Pour notre communauté internationale, ils savent très bien qu'ils doivent les défendre des intérêts de leur peuple. Et cela doit être cas pour le Congo. Le Congo, nos dirigeants doivent savoir qu'ils doivent défendre les intérêts de notre peuple. Au moment où ils n'ont pas ça, parce qu'ils sont piqués par le virus de l'individualisme, ils vont dans des accords pour pouvoir avoir leurs intérêts, eh bien, ils vont ouvrir les portes à ceux qui ont des façons de faire.
Alors, comment la femme congolaise peut arriver à changer
et
tout
ça? Et
c'est
là que la femme congolaise arrive
à changer tout ça.
C'est là où il y a un grand rôle pour pouvoir impliquer la femme congolaise.
Les femmes ne sont pas en clair au détournement comme les
hommes. Mais tu as vu, par exemple, pas seulement même les deux, une femme congolaise, une femme, je voulais dire congolaise, mais en général, une femme qui est déterminée, il y a quelqu'un qui a parlé de méritocratie, qui elle ne va pas non seulement se faire corrompre, mais elle va même intimer la peur dans l'homme qui est en face. Vous avez vu, Madame Soumino a fait peur à Kagame le 8 février dans la réunion de CSADC. Il a fui parce qu'elle a répété des choses. Et quand Madame Kayikwamba se met dans cette réunion des Nations Unies, vous voyez que tous les gens de Kagame ne peuvent même plus parler, du point qu'ils vont même être sanctionnés et chassés de boulot. C'est pour dire que la femme qui prend les choses en main, elle les défend. Et ici, le message, c'est que le gouvernement, on n'est pas en train de parler de consolidation. Le président Fati, aujourd'hui, on célèbre aussi la masculinité positive. Et il a démontré qu'il est vraiment le champion de la masculinité positive.
On va prendre un dernier auditeur, puis vous allez conclure. Hein, vous allez revenir sur la masculinité positive de présent. Félix, en tant que Tshisekedi, on va prendre Olivier Ndumba qui nous appelle depuis Kisangani. Olivier Ndumba, vous êtes à Kisangani. On vous écoute pour 2 minutes. Allez-y, rapidement.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à notre invitée, madame Marie-Claire. Ouais. Alors oui, la RDC entièrement est vraiment dans la joie quant à la démarche qui a été menée par la chef de la MONUSCO, Madame Mbithu Keïta, qui s'est dit prête tout en soutenant toutes les initiatives visant à rétablir la paix sur l'ensemble de notre pays. Alors, de mon point de vue, je pense que notre pays, la RDC, semblait s'oublier toujours. Permettez-moi, cher journaliste Marcel Mbongo.
Marcel Ngombo.
Merci bien. Ouais. Et pourquoi j'ai tenu un tel genre de propos? Parce qu'il y a beaucoup de sanctions au niveau continental et même mondial face au pays du président Paul Kagame. Mais plus rien ne va. Au contraire, ces troupes rwandaises, elles ne font que progresser dans la zone est du pays. Voilà. Et j'ai deux petites questions que je voudrais soumettre à l'invité.
Bon, rapidement, on n'a plus assez de temps, vraiment ouais. Rapidement, oui. Première question.
Pourquoi y a-t-il toujours cette persistance et progression du 1v3 sur les sols congolais?
La première question, la deuxième.
Voilà. Faut-il affirmer que nous sommes au temps de la fin qui s'était dit qu'un pays peut vaincre les grands en termes de la superficie, le Rwanda peut contenir un RDC en plus de 80 fois.
Voilà, merci beaucoup, Olivier Nduba, des pays qui s'engagent. À bientôt. Docteur Marie-Claire Moutandès, vous pouvez réagir rapidement vous allez conclure. Voilà.
D'accord, assez rapidement. Olivier, merci, des questions très pertinentes. Je parlais tout à l'heure des intérêts. Le Rwanda a été... Et c'est factuel aussi, il faut lui-même, Kagame maintenant, il regrette, il dit que nos amis là qui me relâchent, il a été puppet, on peut dire, il a été jouette parce qu'il défendait les intérêts des autres pays qui ont des intérêts sur le minerai stratégique du Congo. Et ils ont trouvé, après la chute de Mobutu, en Kagame, quelqu'un qui pouvait assurer la stabilité par rapport à leur acquisition à ces minerais. Et ils l'ont accompagné. Ça, c'est comme ça que la vie est. Ce sont des relations, des intérêts. Aujourd'hui, au point d'aujourd'hui, Kagame n'est plus crédible à leurs yeux. Nous avons une opportunité de nous remettre dans le marché parce que c'est nous le propriétaire de ces minerais. Et c'est la démarche que vous voyez, par exemple, le président Félix a entamé avec les États-Unis, où il a envoyé le président du Sénat entamer la même démarche au niveau de l'Union européenne avec le pays de l'Europe pour pouvoir dire que les minerais nous appartiennent, vous avez besoin des intérêts pour vos populations, nous avons besoin des intérêts pour notre population. Le premier intérêt pour nous, c'est d'avoir une sécurité qui est homogène, loyale, qui a l'idéologie de sauver le pays, et c'est pour cela que j'engage. Et d'autres, c'est d'ouvrir un marché économique et ouvrir la possibilité
à mon peuple. Ça, c'est la question des intérêts. Bon, vous avez une minute pour
maintenant,
conclure.
Maintenant, pour affirmer le temps de la fin, moi, j'aimerais bien dire non, on n'est pas à la fin. Le Rwanda, c'est le Rwanda qui est à la fin. Ça peut sembler que le Rwanda refuse parce qu'effectivement, aujourd'hui, le Rwanda n'a pas d'autre option que de s'accrocher. C'est comme un chien avec un os dans les dents. Il n'a rien d'autre pour survivre. Il va s'accrocher. Mais il faudra que nous, on le fasse arrêter. Et c'est là qu'il y a notre rôle. Et pour conclure...
Rapidement, vous n'avez plus assez de temps. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais c'est quoi vous voulez dire en 30 secondes?
Oui, je voulais dire que ici, nous célébrons, c'est les derniers jours du mois de la femme et c'est les jours qui est dédié aussi à la masculinité positive, qui est autre que de pouvoir embarquer beaucoup d'autres hommes à pouvoir relever la position de la femme surtout dans des positions de décision.
Vous faites bien de finir avec le mot sur la femme. Vous faites bien de finir avec le rôle que la femme doit jouer. Ouais. Désolé, docteur Marie-Claire Moutanda. Merci d'avoir été de nous. Je rappelle que vous êtes président du parti Nouvelle Dynamique Lumumbiste, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. On vous retrouvera prochainement.
Merci, cher.
Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ce jour. Merci à Debs Vita qui est à la mise en onde, Alizis Kavira qui l'a réalisé, coordonné au micro, c'était Marcel Ngomombala. Très bientôt et merci surtout à tous de l'avoir suivi. Merci d'écouter Radio Capi, la fréquence de la pile, 10h à Kinshasa, le bulletin d'information.